France Inter. Le 18-20. Claire Servagent.
Au téléphone sonne ce soir, pourquoi de telles pénuries de médicaments? Pourquoi certains produits sont-ils introuvables au risque d'aggraver la santé des patients? On estime qu'une personne sur quatre a déjà été confrontée à ce problème qui semble s'aggraver puisque des centaines de médicaments sont désormais concernés. Cela fait un moment que les médecins sonnent le tocsin, que les pharmaciens s'arrachent les cheveux et que les patients s'impatientent. Chacun y va de sa tribune et de sa pétition. La question a pris une telle ampleur ces dernières années et surtout ces derniers mois, que le gouvernement a décidé de taper du poing sur la table. Il y a annoncé il y a quelques jours la possibilité de renforcer les sanctions contre les laboratoires concernés, après avoir présenté une feuille de route pour les prochaines années et mis en place un comité de pilotage pour réfléchir aux solutions à trouver. Reste à comprendre d'où viennent ces pénuries, ce qui les provoque, et de tenter de trouver un remède à ce mal. Avec nous pour tenter d'y voir plus clair ce soir et pour répondre à toutes vos questions, trois invités. Alain Astier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pharmacologue, membre de l'Académie nationale de pharmacie, c'est
absolument,
bien ça?
Absolument.
Thomas Borel, directeur scientifique du LEM, bonsoir.
Bonsoir.
Vous représentez les entreprises du médicament. Et Nathalie Coutinet, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Professeur à Paris 13, co-auteur aux éditions La Découverte d'un livre intitulé Économie du médicament, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça.
Alors si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de nous appeler au standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite, un premier appel, c'est Michel qui nous appelle d'Annecy. Bonsoir Michel, on vous écoute, bienvenue à vous.
Bonsoir, j'ai entendu parler des pénuries des médicaments et j'ai eu la curiosité de demander à ma pharmacie dans la banlieue d'Annecy ce qu'il en était pour un médicament très courant, la cortisone. Il m'a été répondu qu'il ne pouvait en délivrer que 2 boîtes par jour. Donc le troisième client qui souhaiterait de la cortisone est bredouille. Pourtant, à Genève, à 30 km, aucune pénurie n'est signalée pour la prednisolone, mais elle y coûte 0,65 € par comprimé contre 0,16 € en France, soit 4 fois plus. Il s'agit de générique dans les deux cas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour les laboratoires pharmaceutiques pour faire comprendre à la France qu'elle doit augmenter ses tarifs des médicaments anciens qui n'ont pas été réévalués depuis assez longtemps? Merci.
Merci Michel pour cette question et cette entrée en matière. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre parce que vous nous parlez d'abord d'une question de pénurie, ensuite d'une question géographique, ensuite vous nous parlez des prix. Alors on va prendre tout ça peut-être dans l'ordre. Alain Astier, d'abord avec vous, la cortisone, est-ce qu'il y a un problème d'approvisionnement? Est-ce qu'il y a un problème de pénurie sur ce produit-là?
Alors bien sûr, il y a des problèmes de pénurie avec beaucoup de corticoïdes, pas uniquement la cortisone, mais beaucoup de corticoïdes. La cortisone, c'est un type de corticoïde, il y en a d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement récent, qui frappe évidemment le public. Alors c'est quand même assez amusant de voir que la cortisone a été découverte il y a 70 ans. Les trois découvreurs ont eu le prix Nobel de médecine en 1950 pour cela. Et 70 ans après, dans un pays développé comme la France, on n'a plus de cortisone disponible pour les patients. Quand même un vrai, vrai problème.
Alors, Michel nous dit qu'à Genève, juste à côté, il n'y a pas de souci. C'est quoi? C'est un problème de répartition géographique? Qu'est-ce qui se passe? Thomas Borel, du LEM.
Alors écoutez, on va essayer de répondre à Michel et à beaucoup de personnes en France, parce que plus de 10 millions de personnes prennent de la cortisone ou ont pris de la cortisone l'année dernière, sur ce qui s'est passé sur cette crise d'accès au traitement aux corticoïdes oraux, qui est un cas particulier, comme je dirais beaucoup des cas que nous rencontrons sur les ruptures. En l'occurrence, il y a eu un problème de fabrication d'une des unités de production qui se trouve en Grèce à l'origine, d'une des formes de corticoïdes. Le fait d'avoir cette problème de fabrication a concentré les achats par les industriels du médicament, par les entreprises, auprès d'autres fournisseurs qui sont aujourd'hui basés en France. Et donc la crise, là, pour le coup, est assez française, alors qu'en général, les crises et les ruptures de stock et d'approvisionnement de médicaments sont plutôt d'envergure internationale, parce que c'est le fournisseur français qui lui-même était en incapacité de couvrir la production complémentaire nécessaire de corticoïdes pour fournir les 10 entreprises du médicament qui, elles, commercialisent le produit en France. Là, je voudrais qu'on en profite pour rassurer nos auditeurs, c'est qu'aujourd'hui les corticoïdes comme la prednisone ou la prednisone sont disponibles et que le niveau d'apport des entreprises du médicament dans les pharmacies est équivalent à ce qui était mis à disposition l'an dernier. Donc cette situation ne doit pas perdurer, maintenant c'est dans le circuit de distribution que ça se passe.
Alors Michel évoquait la question du prix, on va y revenir bien évidemment, mais je voudrais d'abord, Nathalie Coutinet, peut-être qu'on dise, est-ce que c'est un problème plus général? C'est pas un problème que franco-français, là il prenait l'exemple de la Suisse, mais globalement ces histoires de pénurie, ça ne concerne pas que la France.
Non, tout à fait. Les problèmes de pénurie sont des problèmes mondiaux. On retrouve des pénuries absolument dans tous les pays, dans tous les pays européens, aussi en Amérique du Nord, au Canada. Il y a les mêmes problèmes de pénurie ponctuelle ou plus durable sur certains médicaments. Alors ces pénuries, elles s'expliquent aussi. Alors évidemment, chaque cas, comme le disait Monsieur Borrell, chaque cas est particulier. Néanmoins, on retrouve quand même une dominante commune, c'est les modifications de l'organisation de la production des médicaments. Dans ce secteur, comme dans beaucoup d'autres secteurs, les entreprises sont extrêmement financiarisées, donc elles ont mis en place des stratégies pour optimiser la rentabilité de leur production et donc pour donner le plus de dividendes possible à leurs actionnaires. Et donc, elles ont externalisé de plus en plus. Elles ont fait produire par des sous-traitants, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, de plus en plus d'éléments de la chaîne de fabrication qui est donc se retrouve extrêmement fragmenté. Et comme le médicament est évidemment un produit qui est extrêmement contrôlé, dont la fabrication était très contrôlée, parce qu'à la base, c'est évidemment un produit qui est dangereux, eh bien, il suffit qu'il y ait un petit problème de fabrication quelque part, ou un petit déséquilibre dans l'approvisionnement quelque part, et c'est toute la chaîne de production du médicament qui va se trouver impactée, et ça au niveau mondial.
Vous le reconnaissez ça, Thomas Borrell, vous êtes d'accord ou pas?
Alors, je pense qu'on pourra revenir sur l'analyse générale, mais juste pour le cas précis des corticoïdes, en l'occurrence, c'est pas le sujet de la financiarisation des entreprises. De manière générale, effectivement, on peut revenir sur les causes, c'est important d'évoquer les causes, mais là, en l'occurrence, c'est pas le sujet. Vous voyez, comme quoi, il y a un problème de production. En l'occurrence, c'est l'entreprise française qui produit ces corticoïdes pour toutes les patients français, ou majoritairement à l'exception de cette entreprise grecque. Elle était soumise, elle, à nouvelles normes par ailleurs, qui sont des normes tout à fait vertueuses, qui sont des normes pour éviter la falsification des médicaments, qui s'imposent à tous les médicaments en Europe. Simplement, mettre en place ces normes, c'est changer des lignes de production. Donc on est dans les techniques industrielles, et changer des lignes de production, ça veut dire investir, ça veut dire mettre parfois en arrêt cette ligne de production, donc insuffisance de production pour répondre à une demande qui, elle, n'avait pas bougé alors que la production des voisins grecs était insuffisante. Voilà, c'est juste pour préciser sur le cas précis qu'évoquait Michel.
On va aller au standard dans un instant, mais à l'instant, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce que disaient Nathalie Coutinet et Thomas Borrell?
Non, mais effectivement, pour les corticoïdes, il y a peut-être une explication tout à fait spécifiquement franco-française. N'empêche que la grande majorité des problèmes sont, comme ça a été indiqué, au niveau mondial. Et alors, ce qui est une autre caractéristique, ce qui est toujours en rupture, ce sont les produits qui sont anciens, souvent injectables, qui ont un marché relativement modéré, enfin qui n'ont pas un très gros marché, notamment les anticancéreux, des produits d'anesthésie, parce que moi je suis hospitalier. Alors évidemment, on parle beaucoup maintenant des problèmes de rupture parce que ça commence à impacter le public, mais à l'hôpital, ça fait 20 ans qu'on est confronté avec ces problèmes qui explosent de plus en plus.
Ça fait 20 ans, mais n'empêche que ça s'est aggravé.
Bien sûr, ça s'est aggravé, multiplié par 20 en 10 ans. On est passé de 40 ruptures d'approvisionnement à plus de 800. Et on va en atteindre 1200. Donc on est vraiment dans des situations absolument catastrophiques. Et nous, tous les jours à l'hôpital, on jongle pour trouver des alternatives, des produits. Et il y a des pertes de chance des patients. Il y a des patients qui sont moins bien soignés, qui ont des moins bons résultats, notamment en cancérologie. Il y a plein d'articles qui montrent, je peux le détailler si vous le souhaitez, qui montrent que ces ruptures d'approvisionnement, de plus en plus répétitives et puis qui peuvent durer longtemps, impact considérablement la qualité de soins des patients.
On va au standard. Comme promis, cette fois, c'est Francine qui a une question à nous poser. Bonsoir Francine, on vous écoute.
Bonsoir France Inter, ma radio préférée. Merci de prendre mon appel.
Je précise que vous appelez de Bayeux, Francine. Merci à vous.
Merci. Je vous téléphonais, là, c'est pour le BCG, vaccin centenaire, qui est régulièrement en pénurie. Or, c'est le traitement le plus efficace pour le cancer de la vessie. Mon époux, depuis 3 ans, est atteint de ce cancer et il vient de subir une 5e récidive. Mais il n'a pas eu le traitement BCG parce qu'il n'était pas à un grade assez élevé. Des milliers de personnes en sont privées, ça c'est certain. Et apparemment, les laboratoires ont cessé leur fabrication, je pense à Sanofi Pasteur, pour des raisons de complexité et de faible rentabilité. Je trouve ça scandaleux.
C'est difficile à vivre, Francine ?
Oui. Oui, parce que on ne sait pas si on va en voir le bout. C'est voilà. Et puis.
Et alors, du coup, comment faites-vous ?
Eh bien, peut-être que on nous a promis un traitement par BCG après la cicatrisation, là, c'est-à-dire dans un mois à peu près. Mais je ne sais pas, parce que jusqu'ici, y a une pénurie de BCG, alors peut-être que vos intervenants vont pouvoir éclairer notre lanterne.
Eh ben, on va leur poser la question. Merci Francine de nous avoir appelé. Thomas Borrell, qu'est-ce que vous répondez à Francine?
Francine, elle pointe, bonsoir madame, mais vous pointe du doigt hein, quelque chose de particulièrement important qui est un traitement qui sert dans le traitement du cancer. Donc évidemment, quand on est dans cette situation-là, les entreprises du médicament sont bien embêtées que ça se passe comme ça. Assurément, parce que c'est quand même leur mission que de mettre à disposition ces traitements-là. Le cas du BCG intravésical est un cas effectivement aussi intéressant, tout à fait différent du cas précédent, et on est dans un transfert d'une production du BCG intravésical d'une entreprise qui est maintenant repris par une autre entreprise. Donc en l'occurrence, a priori ou à ma connaissance, il y a une forme de BCG intravésical commercialisée par une autre entreprise du médicament qui est aujourd'hui disponible. Je ne sais pas comment ça se passe à l'hôpital de Bayeux aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui normalement couvert d'après l'agence du médicament.
Alain Astier.
Alors le BCG c'est un très bon exemple, puisqu'effectivement le BCG fonctionne dans un certain nombre de cas, et l'alternative, qui est souvent de la chirurgie, donne de moins bons résultats. Donc il y a une perte de chance clairement pour les patients qui ne disposent pas de BCG. Et deuxièmement, le problème des ruptures d'approvisionnement, c'est pas tout ou rien. C'est pas il y en a ou il y en a plus. C'est qu'il y en a pas assez. Donc on est amené à l'hôpital tous les jours à faire des choix. C'est-à-dire que les patients sont choisis, ceux qui pourront en bénéficier et d'autres qui ne pourront pas en bénéficier. Donc on est dans des situations qui éthiquement sont tout à fait condamnables, je dirais, hein, et qui posent vraiment problème. Le BCG, et ça a bien été dit par madame, hein, elle a raison, c'est-à-dire que le laboratoire qui faisait le BCG arrête parce que c'est trop compliqué et ça rapporte pas assez. Donc c'est une logique purement de rentabilité financière, comme de la cosmétique, des téléphones portables ou de l'alimentation, sans tenir compte du fait qu'un médicament n'est pas un produit comme un autre.
Nathalie Coutinet.
Oui, c'est toute l'ambiguïté de l'industrie pharmaceutique, qui est à la fois une industrie privée et financiarisée, comme je le disais, avec des règles qui sont les règles des entreprises privées, mais en même temps, qui est rendue solvable par les organismes de remboursement et qui a une mission de santé publique extrêmement importante. Et effectivement, les autorités n'arrivent pas à contrôler ou à imposer des conduites vertueuses aux entreprises pharmaceutiques qui sont prises dans la recherche de profit, donc effectivement abandonner des médicaments anciens moins rentables que d'autres, mais en même temps, la nécessité pour les pouvoirs publics de remplir ce devoir de santé publique. Bien que la communication, et c'est quand même assez amusant, c'est que la communication des entreprises pharmaceutiques, si vous allez sur les sites, hein, c'est toujours la santé publique, au service des patients, etc. Mais quand il y a des choix financiers qui sont faits, ils sont pas toujours faits dans du point de vue du patient. Justement.
Alors Thomas Borrell, vous qui représentez les entreprises du médicament, dans un cas comme celui qu'évoque Francine, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous réunissez? Est-ce que vous prenez des décisions? Est-ce que vous essayez de demander aux entreprises concernées de changer quelque chose à leur façon de faire ou pas?
Alors écoutez, d'abord préciser à tous que aujourd'hui et depuis longtemps d'ailleurs, depuis 2012, il y a une loi qui interdit tout arrêt de commercialisation de façon unilatérale par l'entreprise sans en avoir concerté un an avant l'agence du médicament. Donc les choses sont faites pour être organisées sous l'égide d'une agence, qui est une agence qui s'occupe de la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Donc ces choses s'organisent. En l'occurrence, quand une entreprise pourrait, et c'est le cas de temps en temps, décider d'arrêter de produire un produit pour un médicament pour une raison X ou Y, ça se fait en concertation avec l'agence du médicament, avec les professionnels de santé, pour trouver des solutions relais. Évidemment, par ailleurs, par rapport à ce qui est évoqué précédemment, je veux dire, La raison d'être des entreprises du médicament, c'est de mettre à disposition des médicaments.
C'est le aussi modèle, de faire des profits comme toute entreprise
sûr,
qui a besoin
dire,
de gagner de l'argent,
modèle,
on est d'accord
là-dessus.
Le
modèle économique des entreprises du médicament, c'est de vendre des médicaments, évidemment. Et donc certains médicaments sont vendus aujourd'hui à des prix très faibles, ce qui n'empêche pas l'entreprise de continuer à produire ces médicaments-là. Par contre, quand l'entreprise du médicament a des surinvestissements parce que la demande sur le plan international augmente, c'est là où parfois le bas blesse, quand les prix de certains médicaments, il est vrai, sont particulièrement faibles, comme c'est le cas en France, notamment par rapport à d'autres pays européens. Mais néanmoins, je rassure encore une fois, je vais préciser à nos auditeurs, qu'on n'arrête pas la production d'un médicament juste parce que on a dit, tiens, c'est pas assez cher, il n'y a pas assez de marge sur le produit. C'est pas du tout comme ça que cela se passe.
Nathalie Coutinet, vous
allez
pas être
tout à fait d'accord. Oui, je voudrais revenir sur la question du prix, parce que ça, c'est le credo du LEM, donc des entreprises du médicament, et c'est pas complètement vrai. En fait, c'est assez compliqué de faire des comparaisons internationales en termes de prix des médicaments, parce qu'il faut distinguer les nouveaux médicaments, les médicaments sous brevet, et puis les génériques qui ont perdu leur brevet. selon le type de médicament, on a des écarts de prix qui sont différents selon les pays. Alors, si on prend les prix sur l'ensemble des produits, les prix en France sont de 9% plus faibles que la moyenne européenne. Mais il y a des pays dans lesquels c'est encore plus bas. Maintenant, si on regarde par type de médicament, notamment dans le cas des génériques, qui sont les produits qui sont les plus souvent en rupture, les prix des génériques en France sont pas plus faibles que les prix des génériques en dehors. Et surtout, le volume, si vous voulez, ce qu'on appelle dans le répertoire des génériques, c'est dans les médicaments qui existent en générique, la part des génériques en France est beaucoup plus faible que dans les autres pays. C'est-à-dire qu'en Allemagne, 80% du volume des médicaments sont des génériques. En France, on atteint à peine la moitié. Donc, ça veut dire qu'en fait, proportionnellement, il y a plus de génériques en Allemagne ou au Royaume-Uni qu'il n'y en a en France. Donc cette histoire de prix, elle est... Et en plus, quand on compare les prix, il faudrait tenir compte, là on compare ce qu'on appelle le prix facial, c'est-à-dire le prix de vente. Or, les firmes pharmaceutiques ont des accords prix-volume, par exemple, en France. C'est-à-dire quand il y a des volumes, si vous voulez, quand on fixe, les autorités fixent un prix, c'est avec en fonction d'un certain volume de vente. Si le volume de vente est plus élevé, les firmes pharmaceutiques fournissent des remboursent en fait à l'assurance maladie une partie des sommes gagnées. Et ça existe dans beaucoup de pays. Donc finalement les comparaisons de prix, elles sont extrêmement compliquées parce que évidemment, il n'y a aucune communication sur ces remises. Donc en fait, on fait un espèce d'agglomérat de choses qui sont très difficilement comparables. Mais évidemment, cet argument-là sert aux entreprises du médicament qui disent si les prix étaient plus élevés en France à ce moment-là, et ça répond aussi à la question du premier auditeur.
Thomas Borrell, c'est ce que vous dites vous aussi, puis après on part au standard de France Inter, premier juré.
Auditeurs, mais Madame Coutinet est une économiste. Après, les entreprises du médicament disent pas si les prix étaient plus élevés en France, le problème des pénuries serait résolu.
Vous dites pas que vous aimeriez des prix plus élevés?
Non, c'est différent de dire nous souhaiterions, pour certains produits, notamment des produits anciens, notamment des produits sur lesquels il faut continuer à faire des investissements sur des chaînes de production, effectivement, parce qu'ils sont plus bas que la moyenne européenne et notamment les pays de référence, il conviendrait de les avoir à un niveau plus élevé. Ce d'autant, si je peux me permettre de rajouter un point, c'est que ce phénomène de disparité de prix, et Madame Coutinet l'a très bien dit, on parle de prix, mais en fait, on parle de beaucoup de choses différentes et vous le savez très bien, provoque ce qu'on appelle de l'exportation parallèle, c'est-à-dire que vous avez des acteurs dans la chaîne de distribution cette fois-ci, c'est pas les entreprises mais dans la chaîne de distribution, qui achètent dans un pays, dans le cadre de la libre circulation des biens en Europe, qui achètent dans un pays en général en France parce que c'est moins cher,
surtout
et vont le vendre, aussi en Allemagne.
C'est surtout dans les anciens pays
donc,
de l'Est.
Hein. On a ce sujet aussi qui est un sujet d'exportation qui aggrave en général les phénomènes de tension et de pénurie lorsqu'ils existent.
Allez, Alain Stip, et après promis on va au standard de France.
Oui, juste un mot, au niveau hospitalier c'est faux. Parce qu'au niveau hospitalier, ce ne sont pas des grossistes répartiteurs qui nous fournissent, ce sont directement les laboratoires. Donc c'est eux qui sont responsables, c'est pas un grossiste répartiteur, et encore moins l'agence du médicament.
Michel nous appelle du Bas-Rhin. Bonsoir Michel.
Bonsoir madame.
Merci d'avoir patienté Michel.
Bien de rien. Ma question c'est, la solution ne serait-elle pas de renationaliser carrément l'industrie pharmaceutique française, ou alors... Ça, c'est une provocation. Ensuite, je continue de développer ma pensée. C'est que vous parlez de remboursement que la Sécu reçoit. Et cet argent, il faudrait peut-être le mettre dans une caisse spéciale avec les taux d'intérêt qui serviraient à financer les nouveaux médicaments produits en France. Et cela pourrait... nous générer un certain bénéfice des brevets à revendre.
Vous en avez des idées, Michel. Hein. Merci.
Oui, c'est donc un cercle vertueux, vous voyez.
Oui, oui, oh, je vois tout à fait. Merci beaucoup, Michel. On va essayer de vous répondre. Peut-être sur la renationalisation, je ne sais pas si ça a déjà été nationalisé, Alain Astier.
Non, alors, je crois que le problème, il n'est pas de parler de nationalisation ou pas. Mais bon, Sanofi a été privatisé, etc. Ce n'est pas la question. La question, c'est si l'industrie privée à but lucratif n'est pas capable, ne veut plus pour l'État de raison produire un certain nombre de médicaments qu'ils considèrent comme pas rentables, mais il faut trouver une solution à but non lucratif, c'est-à-dire une solution de nature publique, ça ne veut pas dire forcément une usine nationale, mais les États-Unis, qui ne sont quand même pas la patrie, la patrie du libéralisme, c'est quand même assez. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ? Les hôpitaux à but non lucratif, ça existe aussi aux États-Unis, confrontés aux mêmes problématiques, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé leur propre structure pharmaceutique à but non lucratif pour être des acteurs d'achat de médicaments en masse pour éventuellement les fabriquer eux-mêmes. Donc ils se sont dit très clairement, comme tout bon Américain, puisque il y a pas ce qui nous est promis ce qu'ils avaient normalement dû, eh bien, on va faire une concurrence à but non lucratif. Et si on fait une concurrence à but non lucratif, en termes d'économie, enfin, je suis pas économiste, mais compte tenu de la part importante que représentent les, je dirais, les bénéfices dans le prix d'un médicament, hein, quel que soit son mode de fixation, eh bien, si on n'a plus ces dividendes reversés aux actionnaires, on peut avoir des prix, je dirais, qui seront au moins maintenus.
Mais vous, par exemple, pharmacologue de l'Académie de pharmacie, c'est quelque chose que vous réclamez officiellement, que vous demandez ?
Je parle pas au nom de l'Académie de pharmacie, parle en mon nom propre. Mais un grand nombre de collègues médecins, on a signé tous des tribunes là-dessus. Et d'ailleurs, c'est envisagé dans le plan de la ministre de la Santé.
Elle pose la question.
Elle pose la question de voir si c'est pas une partie de la solution. C'est pas la seule solution, mais c'est probablement une partie de la solution, probablement plus efficace que des sanctions qui, de toute façon, pour un industriel, c'est pas très important.
Thomas Borrell, de
l'industrie. Juste quelques éléments de réponse, mais pourquoi pas réfléchir à une solution effectivement publique pour un certain nombre de médicaments. D'ailleurs, effectivement, c'est dans la feuille de route que d'y réfléchir, la feuille de route de la ministre que d'y réfléchir. Juste quelques points. D'abord, aux États-Unis, malheureusement, ça n'a pas résolu le problème des pénuries. Ça a traité de façon différente, mais le problème des pénuries est tout aussi persistant. Parce qu'encore une fois, comme ça a été dit tout à l'heure par Madame Coutinet, c'est quelque chose en général qui touche beaucoup de pays sur la planète. Et aussi parce que souvent les cas de pénuries sont associés à un problème de qualité de la production. Et c'est ça qui fait qu'on arrête aussi la production. Parce que la qualité et la sécurité, c'est le maître mot de ces entreprises. Premièrement, ça c'est pour les États-Unis. Deuxièmement, si le modèle pourrait fonctionner aux États-Unis, sur le plan économique, là j'entends, si ça ne fonctionne pas, si ça ne peut pas fonctionner en France, c'est aussi parce que c'est un effet de volume. Et nos entreprises sont des entreprises qui, en général, vendent dans le monde entier. Et c'est cet effet de volume, y compris lorsque les prix sont bas, qui permet aussi d'amortir les coûts de production. Ça, c'est une logique économique assez standard industrielle. Et à l'échelle d'un pays comme la France, ce ne serait sûrement pas suffisant.
Nathalie Coutinet, peut-être on va à ce stade de l'émission expliquer globalement où sont fabriqués la plupart des médicaments. C'est où c'est en Asie. Alors, comment on fabrique ?
Alors ça, encore une fois, ça dépend du type de médicament. C'est ça qui rend le marché un petit peu compliqué. Si on prend les médicaments génériques, c'est d'ailleurs les médicaments qui sont relativement anciens. Un médicament, c'est d'abord un principe actif et c'est ensuite un principe actif qu'on va mélanger avec des excipients, les mêmes excipients d'ailleurs que l'agroalimentaire, pour en faire des gélules, des comprimés, des sirops, etc. Alors aujourd'hui, les principes actifs sont essentiellement à plus de 80% fabriqués en Asie, notamment en Chine et en Inde. Ensuite, on dit on va façonner, c'est-à-dire qu'on va utiliser, on va donc faire ce mélange entre le principe actif et les excipients. Ce façonnage, il est réalisé plutôt dans les pays développés, mais aussi dans les pays, enfin c'est un peu reparti dans le monde. C'est comme ça qu'on fabrique. Alors aujourd'hui, comme je le disais au début, cette chaîne de fabrication allait éclater complètement au niveau mondial. Et comme l'a dit Monsieur Borrell, la complexité et les contrôles qu'il y a peuvent entraîner des ralentissements de production, des arrêts de production, notamment pour des problèmes de qualité. Et les problèmes de qualité se trouvent plutôt dans les pays d'Asie que en Europe. On a moins de problèmes de qualité que dans les pays d'Asie. Pour répondre aussi à la question qu'a posée ce dernier auditeur quant à la nationalisation, alors évidemment c'est pas possible de renationaliser une firme comme Sanofi, ça coûterait monstrueusement cher à l'État. Quant à la solution que propose Monsieur Borrell, c'est-à-dire que l'État se substitue à l'industrie pour fabriquer les plus vieux médicaments, alors évidemment c'est possible. Maintenant ça pose quand même un problème de fond. Ces médicaments qui sont vieux, ils ont été jeunes. Ça a été des médicaments innovants. Quand ces médicaments étaient innovants, ils ont rapporté énormément d'argent à l'industrie pharmaceutique. Évidemment, aujourd'hui, ils rapportent moins. Mais peut-être que les autorités, là, pourraient considérer qu'il y a un lissage, finalement, des profits sur la durée de vie du médicament. C'est-à-dire qu'on accorde, et légitimement d'ailleurs, sans doute, des prix élevés, parfois beaucoup trop élevés, mais en tout cas des prix élevés aux nouveaux médicaments pour inciter les firmes à produire ces médicaments et à chercher. Mais maintenant, le prix pourrait aussi tenir compte de la durée de vie du médicament et dire, OK, c'est très cher au début, les prix vont baisser, vous le savez. Hein, et c'est partout dans le monde. Hein, les prix en Grande-Bretagne, en Allemagne, une fois que le médicament est sur le marché, le prix baisse régulièrement. Et là, on pourrait dire, d'accord, il est élevé, il va baisser, mais vous garantissez un approvisionnement tant que ce médicament existe et est utile.
Alors Thomas Borrell, non, garantissez
D'abord, oui, les entreprises garantissent, d'ailleurs par la loi qui les contraint aussi à garantir, et à juste titre et à bon escient, sur l'approvisionnement et la mise à disposition des traitements. Juste sur les causes, puisque vous posiez la question, Madame Servajan, vous avez raison, on a une partie des causes qui est associée à la production de la matière première, à la production
du principe actif. Vous êtes allé fabriquer à l'autre bout du monde, et forcément c'est plus compliqué.
Il y a des tiers qui sont maintenant des tiers auprès de qui les entreprises du médicament achètent cette matière première, qui est une matière première qui sert d'ailleurs de plus en plus biologique, par ailleurs, et qui sert aussi à d'autres secteurs que le champ du médicament. C'est clair que ça a complètement changé. 80% étaient en Europe il y a 30 ans, maintenant vous venez de le dire, 80% dans les territoires d'Inde et
d'Asie. Une progression de 12% par an, c'est énorme.
Sur les volumes donc, d'achat de matières premières, je ne parle pas du médicament fini. Le médicament fini, comme vous l'avez dit, Madame Cotinet, c'est encore beaucoup dans les pays développés. Et à quoi assistons-nous, in fine, y compris sur les médicaments finis? C'est que la France, par exemple, était première en Europe en production de médicaments finis il y a 10 ans, nous sommes aujourd'hui 6e. Sur le territoire européen, on peut regarder les choses de la même façon si on se compare au reste du monde. Et c'est toutes ces politiques qui ont été pas nécessairement très incitatives, parfois à bon escient, lorsqu'on a renforcé les normes environnementales sur la production de médicaments chimiques. Et ça, c'est très bien, on peut tous s'en satisfaire d'un point de vue citoyen. Néanmoins, ça a contribué aussi à une délocalisation de ces productions de médicaments chimiques. Tout ça fait qu'à un moment, cette politique industrielle sur le médicament, elle est probablement pas assez prise en compte d'un point de vue stratégique, parce que c'est aussi l'indépendance du pays dont on parle aujourd'hui.
Je crois qu'on là-dessus, on est tous d'accord. Olivia est au bout du fil, elle est au standard et elle patiente depuis un petit moment. Olivia dans la Manche, oui, on vous écoute. Bonsoir Olivia.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. J'ai vu qu'on avait essentiellement abordé des questions d'un point de vue économique. Moi, ma question est simple. J'ai deux enfants de 4 et 6 ans qui sont allergiques et qui fréquentent la cantine de leur école. On a mis en place un PAI pour qu'ils puissent aller y manger, et on a l'obligation de fournir un certain nombre de médicaments, et notamment des seringues EpiPen qui servent à prévenir un choc anaphylactique si jamais ils étaient en contact avec une matière allergique.
Et il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Et on me dit que ça ne sera pas disponible avant plusieurs semaines parce que les labos sont en rupture et il n'y a pas de stock de secours, etc. Donc ma question était de savoir comment ça se fait que les labos n'aient pas une obligation de garantir la fourniture des médicaments essentiels et qui permettent de régler ce genre de situation.
Merci beaucoup Olivia pour cette question. Alain Astier qui est pharmacologue vous répond, de vous répondre.
Voilà, alors effectivement ce problème est tout à fait dramatique, c'est un exemple et qui d'ailleurs se produit actuellement en Angleterre également, enfin au Royaume-Uni de la même façon, qui a les mêmes problèmes. Alors c'est un exemple typique, c'est-à-dire que ce produit, il n'est pas intéressant entre guillemets, je parle industriellement, il rapporte rien, il est un peu compliqué à fabriquer, par contre il est indispensable pour les patients, mais la logique, c'est une logique purement financière, c'est-à-dire l'idée de faire des stocks, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce qui est suggéré, mais les stocks, ça coûte de l'argent. Donc, on ne fait pas de stock, et donc le moindre grain de sable dans le système fait que effectivement le produit n'est plus disponible. Donc, effectivement, une structure à but non lucratif public pourrait également jouer un rôle de stockage. On stocke bien du pétrole, qui est considéré comme étant une matière stratégique, on pourrait stocker des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. On ne parle pas de tous les médicaments, bien sûr, mais de certains médicaments comme celui-là, qui est effectivement d'intérêt thérapeutique majeur, on pourrait le stocker, en avoir des...
Moi, dans mon opinion, le gouvernement, c'est ce qu'il envisage, d'obliger à stocker...
Mais bien entendu, c'est une solution d'urgence qu'on peut déjà imposer, ça je pense assez facilement. Et j'expliquais tout à l'heure que dans mon hôpital, la pharmacie est responsable d'un stock d'urgence en cas d'accidents majeurs, notamment radioactifs, dans ma pharmacie, j'ai 15 millions de comprimés d'iodure de potassium, qui j'espère ne serviront jamais à grand-chose, c'est forcément de l'argent immobilisé. Donc c'est de l'argent perdu quelque part, mais c'est le bénéfice-risque. Et donc c'est d'abord la santé publique, avant la maximisation des profits, c'est clair.
Vous avez tous envie de parler, je vous promets que je vous donne la parole dans un instant, mais je voudrais qu'on prenne Jean-Louis, qui patiente lui aussi au Standard de France Inter depuis un petit moment. Jean-Louis qui est coordonnateur CGT pour Sanofi, c'est ça? Jean-Louis, vous êtes dans le Vaucluse?
Oui, c'est ça, dans le Vaucluse, proche d'Avignon. Voilà.
Et vous aviez une question, Jean-Louis? Une remarque?
Alors, c'est plutôt...
Un commentaire?
Plutôt une remarque, un commentaire, mais... Vous avez, pendant le débat, pas mal balayé mes arguments, mais effectivement, quand on parle de pénurie.
Bah, balayons encore, allez, allons-y.
Bah, oui, quand on parle de pénurie, bah, effectivement, derrière cela, il y a les effets de la délocalisation de nos productions, une politique là aussi de stock minimum. Et effectivement, bah, tout cela fait que bah, on se retrouve avec une pénurie de médicaments. Mais alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Comme ça a été dit pendant le débat, il y a un gros intérêt financier pour les laboratoires pharmaceutiques. Si je prends ne serait-ce que l'exemple de Sanofi, il faut savoir quand même qu'en 2017, le laboratoire Sanofi a racheté 2,5 milliards d'actions pour les détruire. C'est-à-dire que ces 2,5 milliards partent directement à la finance, sans compter les dividendes qui sont distribués à nos actionnaires. Donc c'est pour ça que nous, au niveau du syndicat CGT, nous développons l'idée d'avoir une chaîne industrielle qui fasse partie d'un grand pôle public de la santé. Alors c'est vrai que ça existe un peu au niveau de la PHP, mais à très petite échelle. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque le gouvernement, enfin, un État est face à une pénurie de médicaments ou à des coûts trop élevés, il a une arme, et cette arme est face au laboratoire pharmaceutique. Et cette arme-là s'appelle la licence d'office. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, toujours même par manque de courage politique, elle n'a jamais été utilisée, mais aussi, il faut savoir que même si le gouvernement venait à utiliser cette arme, l'État français, la France, n'a pas les capacités de production. Les capacités de production...
Je suis obligé d'accélérer un petit peu, Jean-Louis.
C'est juste pour finir l'argumentaire. Toutes les capacités de production, aujourd'hui, appartiennent au privé. Donc, ça veut dire que la France n'a aucune autonomie pour produire ses propres médicaments. Voilà.
Vous rejoignez effectivement, on a balayé, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, on a effectivement fait ce constat. Nathalie Coutinier, rapidement, et puis ensuite Thomas Borel va répondre sur le cas
oui,
de Sanofi.
Rapidement, deux choses, je suis d'accord effectivement avec ce qui vient d'être dit sur les profits énormes que distribue Sanofi, mais que distribuent aussi les plus grosses pharmaceutiques. Hein, leurs profits ont été multipliés par 3, enfin même par 3,6, et les 11 plus grosses aujourd'hui distribuent 71,5 milliards de dividendes à leurs actionnaires, donc c'est évidemment des sommes considérables. Alors, je voudrais juste sur la proposition de stocker. La proposition de stocker, elle me semble effectivement sans doute une solution, mais pas correcte du point de vue de l'argent public, parce que ça serait un coût pour le public. Et il n'y a pas de raison que là, le public se substitue aux entreprises qui font des profits. Et juste la deuxième chose sur la capacité qu'une structure publique ou parapublique produise des médicaments, là peut-être c'est plus intéressant, et ça ne serait intéressant qu'au niveau européen.
Thomas Borel, rapidement. Et on prendra ensuite Laurence, qui patiente elle aussi au standard.
Peut-être juste un mot pour répondre à nos auditeurs sur le sujet des stocks. D'abord, les entreprises font des stocks de sécurité sur la majorité de leurs produits. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il y a toujours assez de stocks de sécurité pour répondre ? La réponse est non. Effectivement, et c'est ce qu'on constate. Simplement, immobiliser du médicament dans un contexte où les chaînes de production sont complexes. Les médicaments ne sortent pas toutes les semaines de la ligne de production. Parfois, c'est tous les 3 ou 4 mois. Donc, les durées de stock ne peuvent pas nécessairement absorber des causes de pénurie qui, parfois, encore une fois, sont liées à des problèmes de production ou de qualité et qui parfois durent.
Laurence, bonsoir. On n'a plus beaucoup de temps. Bonsoir oui. Laurence. Je voudrais quand même que vous donner la parole, si vous pouvez nous résumer oui. les choses très rapidement, parce que l'émission est presque terminée, mais je pense que votre témoignage est intéressant.
Ok, alors en fait, moi j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'industrie pharmaceutique. J'ai démissionné l'année dernière parce que pour moi, ça n'avait plus de sens. Il faut savoir que quand même, l'industrie pharmaceutique, ils sont toujours très forts en communication, et M. Morel ne fait pas exception. Mais en fait, on sait tous, et on le voit d'autant plus quand on est à l'intérieur, que le plus important, c'est pas la santé des patients, le plus important, c'est le profit, et c'est les dividendes qu'on va pouvoir verser aux actionnaires. Donc moi, j'ai juste un exemple à donner, c'est le Taxotere, par exemple, qu'on produisait en France de façon très efficace depuis des dizaines d'années. C'est un anticancéreux. Et puis, on a délocalisé la production en Chine. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher, et au final, il y a eu des problèmes de qualité. Je veux dire qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement pendant des mois.
Voilà. Merci Laurence, merci
c'est
pour
mon
ce
témoignage.
Merci pour ce témoignage. Il est pratiquement 19h57. On va faire un dernier tour de table en guise de conclusion avec peut-être aussi des solutions. Thomas Borel, vous pouvez répondre évidemment d'abord à ce que vient de nous dire Laurence. Et puis peut-être, si vous avez en quelques secondes, la solution pour vous du point de vue des entreprises du médicament.
Moi, ce que je compte, juste sur le plan des personnes, Laurence a quand même travaillé 25 ans dans l'industrie pharmaceutique, donc je m'en ravis. Il y a 100 000 personnes qui travaillent en France dans le secteur et je peux vous dire que ces 100 000 personnes, elles sont habitées avant tout par des questions de santé. On a beaucoup parlé de questions économiques aujourd'hui, mais c'est les questions de santé qui préoccupent avant tout les industriels. Deuxièmement, il n'y a pas une solution unique sur le sujet des ruptures. Parce qu'on l'a dit là, de façon sibylline, dans toute cette réunion, il y a effectivement beaucoup de causes. Simplement, il faut que chacun prenne des responsabilités et les industriels en prennent. En l'occurrence, ils prennent par exemple, ils ont pris l'engagement il y a quelques semaines de renforcer les stocks de sécurité sur un certain nombre de médicaments.
Et de toute façon, il y a une réflexion qui est en cours, qui a été lancée par le gouvernement. Il y a un comité de pilotage, il y a toute une réflexion qui est en cours. Nathalie Coutinet, pour vous, quelle serait la solution? Enfin, une des solutions, peut-être la priorité?
La solution, c'est que les pays européens se réunissent, se mettent d'accord et tapent du poing sur la table, parce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est extrêmement important, que cette industrie n'existe que parce qu'il existe des organismes de remboursement qui sont gérés par la puissance publique. Et c'est un point qu'oublient souvent les entreprises du médicament.
En tout cas, la solution ne peut pas être dans un seul pays. C'est ce que je comprends dans ce que vous nous dites. Le mot de la fin pour vous, Alain Astier, très rapidement.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par notre collègue économiste. C'est vrai que la solution doit être passée au niveau européen, parce que le problème est européen. Et donc, mais il faut la personne à ne pas oublier, c'est le patient. Et moi, en tant qu'hospitalier, je vois les patients, je vois les pertes de chance des patients, les problèmes qui ont été évoqués. Et franchement, il faut faire quelque chose très vite.
Merci beaucoup Alain Astier, Thomas Borel, Nathalie Coutinet. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à ceux qui nous ont appelés et à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission.